à Washington.
Bonsoir Le Monde. Aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous dans cette édition du vendredi 11 mars 2022. Au sommaire ce soir, manifestation à Nouakchott, les familles des Mauritaniens morts sur le sol malien demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités. Une délégation malienne était attendue à Nouakchott aujourd'hui. Au Tchad, le dialogue entre la junte et les rebelles débute dimanche à Doha, au Qatar. Désescalade en Libye, le premier ministre désigné par le Parlement libyen a annoncé le retrait de groupes armés aux portées de Tripoli pour le soutenir face à l'exécutif en place. L'armée russe a étendu vendredi son offensive en Ukraine. Les États-Unis et ses alliés vont exclure la Russie du régime de réciprocité dans le commerce. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. La Mauritanie et le Mali tentent de dissiper la tension diplomatique provoquée par la mort ou la disparition dans des conditions obscures de ressortissants mauritaniens au Mali. Une délégation malienne est attendue à Nouakchott, mais les familles des morts et des blessés ne décolèrent pas et continuent à manifester dans la rue. À Nouakchott, les précisions de Mohamed Diop.
La colère monte certes dans la rue, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La diplomatie joue sa partition. Il y a d'ailleurs une délégation malienne sur place. C'est une forte délégation. Si on se fie au communiqué de l'état-major malien, cette délégation est composée du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, mais on peut également trouver dans cette délégation le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le général de division Omar Diarra, chef de l'état-major des armées, le colonel Modibo Kone, directeur général de l'Agence nationale des renseignements, mais jusque-là, rien n'a filtré dans les discussions. Aucune déclaration officielle. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'armée malienne qui nie toute son implication dans ce qui se passe a déjà accepté la demande mauritanienne d'ouvrir une enquête sur la question. On peut juste rappeler qu'aujourd'hui, on a pu avoir des familles des victimes et des blessés. Et dans les discussions, ils nous ont cité Wagner, mais c'est des thèses qui restent à étayer. Mohamed Diop pour VO Afrique, Nouakchott.
Le général Laurent Michon, commandant de la force française Barkhane, a déclaré vendredi à Ouagadougou qu'il n'y aura absolument pas de redéploiement au Niger de cette force qui est en train de se retirer du Mali. Le chef de la force Barkhane a par ailleurs annoncé qu'outre les soldats français présents au Mali, les contingents italiens et suédois vont rentrer en Europe. La junte au pouvoir au Tchad, depuis la mort du président Idriss Déby Itno, tué il y a 10 mois au front contre la rébellion, entame dimanche au Qatar des négociations longtemps retardées avec d'innombrables groupes rebelles. Les précisions de John Lyndon.
Ce pré-dialogue de Doha, promis depuis de longs mois et initialement prévu le 27 février et repoussé à la dernière minute au 13 mars, a été confirmé par le docteur Moudlag Al-Khatani, représentant spécial du ministre qatari des Affaires étrangères pour le contre-terrorisme et la médiation dans la résolution des conflits. Mais la cérémonie d'ouverture se déroulera sans une partie importante des 84 chefs et cadres des 44 groupes armés invités qui n'ont pu encore quitter leur repère en Libye, au Soudan ou leur exil plus lointain encore, parce que leurs documents de voyage ne sont pas arrivés à temps. Le but affiché par le général Mohamed Idriss Déby Itno, 38 ans, fils du chef de l'État défunt et autoproclamé le 20 avril 2021, président de la République à la tête d'une junte de 15 généraux, est de parler à tous les rebelles, y compris leur alliance la plus puissante, le Front pour l'Alternance et la Concorde de Tchad, accusé d'avoir tué son père. L'homme fort de N'Djamena veut aussi amener les nombreux groupes armés à la table d'un dialogue national inclusif prévu le 10 mai avec les oppositions politiques et armées.
Au moins 17 civils ont été tués dans de nouveaux affrontements tribaux au Darfour, a indiqué vendredi un responsable dans cette région de l'ouest du Soudan, régulièrement endeuillé par des disputes pour la terre ou l'eau. Ces décès portent à une quarantaine le bilan des morts en une semaine. suite aux combats entre tribus au Darfour. En Libye, le premier ministre désigné par le Parlement, Fatih Bachaga, a annoncé le retrait de groupes armés qui avaient pris position aux portes de Tripoli. Ces groupes étaient positionnés pour le soutenir face à l'exécutif en place. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les groupes armés ont préféré ne pas recourir aux armes et ont effectué un retrait vers leur précédente position, déclare dans un communiqué le service de presse de Fatih Bachaga, premier ministre désigné par le Parlement. Selon ce texte, cette décision a été prise pour éviter toute effusion de sang et en réponse aux demandes des partenaires internationaux et régionaux. L'émissaire du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stephanie Williams, et l'ambassadeur des États-Unis, Richard Norland, ont appelé à la retenue. La Libye se retrouve depuis début mars avec deux gouvernements rivaux. Un gouvernement formé par l'ancien ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, approuvé par le Parlement siégeant dans l'Est. Ce dernier est en concurrence avec le cabinet en place à Tripoli, issu des accords politiques parrainés par l'ONU et dirigé par Abdelhamid Deba, qui refuse de céder le pouvoir. Des groupes armés loyaux à Fatih Bachaga s'étaient alors mobilisés hier aux entrées de Tripoli, faisant craindre des affrontements avec les forces sous les ordres de M. Deba. Le pays tente de se sortir de plus d'une décennie de chaos politique et de conflits.
Au moins 750 civils ont été tués ou exécutés entre juillet et décembre 2021 dans deux régions du nord de l'Éthiopie où la guerre fait rage depuis 16 mois, selon un rapport publié vendredi par la Commission éthiopienne des droits humains. Cet organisme indépendant mais rattaché au gouvernement éthiopien a mené ses investigations dans les régions de l'Afar et de l'Amara. Plus de 40 enseignants marocains ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis pour avoir manifesté sans autorisation en faveur d'une réforme de leur statut professionnel. Une crise qui paralyse l'enseignement public au Maroc depuis 2019, a indiqué vendredi leur avocate. Il y a plus d'hommes que de femmes en Côte d'Ivoire, selon les résultats préliminaires du dernier recensement national conduit fin 2021, qui montre l'urbanisation galopante. Alors que le pays compte 28 millions d'habitants, 20% se concentrent dans sa capitale économique, Abidjan. Le chef de la junte guinéenne, Mamadi Doumbouya, a ordonné la cessation de toute activité sur le site de l'immense gisement de fer de Simandou, pour réclamer que les intérêts de la Guinée soient préservés par les exploitants.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au 16e jour de son invasion en Ukraine, l'armée russe étend son offensive vers Kiev, la capitale. La population des villages assiégés vit terrée. Le Kremlin se dit favorable à l'envoi de mercenaires syriens pour combattre aux côtés de ses forces. De son côté, l'Ukraine presse l'OTAN à en faire plus pour l'aider. Le point avec Nanit Talani.
Les troupes russes ont visé 2 aéroports militaires près de Lviv. Kiev accuse la Russie d'avoir aussi bombardé des villes et frappé un hôpital psychiatrique près d'Izium. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Après avoir atteint les faubourgs de Kiev, l'armée russe tente d'éliminer les défenses ukrainiennes dans plusieurs localités à l'ouest et au nord de la capitale pour la bloquer, explique l'état-major ukrainien. La moitié de la population de la capitale a déjà fui. Moscou s'est engagée à ouvrir quotidiennement des couloirs humanitaires pour permettre aux Ukrainiens de gagner la Russie. Mais Kiev réclame des corridors humanitaires à l'intérieur de ses frontières. Le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'empêcher l'évacuation de civils des villes encerclées de Mariupol et Volnovakha et d'avoir mené une attaque sur le trajet d'un couloir humanitaire. Pendant ce temps, le Kremlin a donné son feu vert aux ressortissants du Proche-Orient, notamment des mercenaires syriens qui voudraient aller combattre en Ukraine. L'Europe se prépare à l'arrivée des milliers de réfugiés ukrainiens. Le président Zelensky estime que l'OTAN devait en faire plus pour son pays après que les 27 ont exclu hier toute adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne tout en ouvrant la porte à des liens plus étroits. Les Occidentaux s'inquiètent ouvertement d'une possible utilisation d'armes chimiques en Ukraine. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce vendredi en urgence sur ce sujet à la demande de Moscou.
La Russie paiera le prix fort si elle utilise des armes chimiques en Ukraine, a prévenu le président américain Joe Biden lors d'un discours à la Maison-Blanche vendredi. Les Occidentaux s'inquiètent d'une possible utilisation d'armes chimiques par Moscou en Ukraine. De son côté, la Russie accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés à produire des armes biologiques dans le pays, ce qui a été démenti par les deux capitales. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur ce sujet se tient aujourd'hui à partir de 16h en temps universel. Joe Biden a annoncé vendredi que les États-Unis et ses alliés avaient décidé d'exclure la Russie du régime normal de réciprocité régissant le commerce mondial, ce qui ouvre la voie à l'importation de tarifs douaniers punitifs en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco avec Rosine Monezero.
En Guinée, le chef de la junte Mamadi Doumbouya a ordonné la cessation de toute activité sur le site de l'immense gisement de fer de Simandou pour réclamer que les intérêts de la Guinée soient préservés par les exploitants. Le chef de la junte n'a pas précisé quelle était la teneur de ses demandes aux exploitants du site, dont l'exploitation est entravée de longue date par des soupçons de corruption et par le volume élevé des investissements à réaliser. Les marchés boursiers rebondissaient vendredi au 16e jour du conflit russo-ukrainien, après une déclaration du président russe Vladimir Poutine qui a constaté des avancées positives dans les pourparlers avec l'Ukraine. Vendredi, Paris gagnait 2,43%, Francfort 3,41%, Milan 2,75%, Londres prenait 1,39% alors que le produit intérieur brut britannique a été annoncé en hausse de 0,8% en janvier. Même sur ce à New York où les contrats à terme des trois principaux indices ont grimpé, annonçant une ouverture en nette hausse de plus de 1%. Les pays du G7 demandent à la communauté internationale d'éviter toute mesure limitant les exportations de denrées alimentaires pour ne pas aggraver l'actuelle hausse des prix sur ce marché déstabilisé par la guerre en Ukraine, a déclaré le ministre allemand de l'Agriculture. Ces sept pays se sont eux-mêmes engagés à éviter tous les signaux et mesures restrictives qui limiteraient les exportations et entraînent de nouvelles hausses de prix, selon une déclaration commune.
Et sans tarder, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Suite à ce vendredi, des matchs de la Basketball Africa League qui se jouent à Dakar au Sénégal. Duel maghrébin ce soir entre les redoutables Tunisiens de l'US Monastir et les Marocains de l'AS Salé. Les Tunisiens comptent 2 victoires en 2 matchs, tandis que les Marocains en ont une seule et veulent refaire leur retard. Juste après, à 21h, temps universel, la formation haute Dakar Université Club tentera d'arracher une première victoire dans cette compétition devant les Rwandais de REG, Rwanda Energy Group, qui totalise aussi 2 victoires jusqu'ici. Les Sénégalais ont perdu leurs 2 premiers matchs face à Slack de la Guinée et Ferroviário da Beira du Mozambique. Basketball toujours, mais cette fois-ci ici en NBA, les Nets de Brooklyn ont étrié 129-100. Les Philadelphia Sixers du Camerounais Joel Embiid, auteur de 25 points et 12 rebonds pour l'heure. Les Sixers restent 3e à l'Est et les Nets sont 8e. Plus tard, dans l'autre match de la soirée d'hier, Golden State a remporté un succès probant à Denver 113-102, grâce notamment à Stephen Curry, auteur de 34 points avec 9 rebonds. Football, le Ballon d'Or portera dès 2021-2022 sur la saison sportive et non plus sur l'année civile, annonce le magazine France Football qui l'organise. Remis en fin d'année calendaire depuis sa création en 1956, le trophée s'alignera désormais sur la saison de football courant d'août à juillet. France Football a effectué d'autres modifications comme l'intégration de l'ancienne star ivoirienne Didier Drogba dans le comité chargé de présélectionner les nominés. En outre, le jury va être resserré, toujours composé de journalistes avec un votant par nation. Il ne comptera désormais que 100 jurés pour le Ballon d'Or masculin contre 170 auparavant, correspondant aux 100 premières nations au classement FIFA et 50 pour le Ballon d'Or féminin sur le même mode. La prochaine remise du trophée aura lieu en septembre ou octobre 2022. Et puis, Chelsea a déclaré vouloir discuter avec le gouvernement britannique. Il dit vouloir lui demander de changer la licence accordée au club de football pour qu'il puisse fonctionner aussi normalement que possible après les sanctions imposées hier à son propriétaire russe Roman Abramovich, qui touche par ricochet le champion d'Europe de foot. Les autorités britanniques ont annoncé un gel des avoirs de Roman Abramovich dans le cadre de mesures de représailles prises contre des oligarques russes liés au Kremlin après l'invasion de l'Ukraine.
C'était le sport
Le Monde
de Yacouba,
aujourd'hui,
Ouedra,
VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila Kiza avec vous, place au dossier du jour. La junte au pouvoir au Tchad entame dimanche au Qatar des négociations longtemps retardées avec d'innombrables groupes rebelles. Le général Mahamat Idriss Déby Itno veut parler à tous les rebelles et amener les nombreux groupes armés à la table d'un dialogue national inclusif prévu le 10 mai avec les oppositions politiques. Pour en parler, John Lindon a joint à Paris Taher Ali Nanaï, ancien ambassadeur et porte-parole du CNC, le Conseil national pour le changement.
C'est une longue histoire. Du vivant du président Idriss Déby, nous avions toute opposition politique, co-militaire compris, nous avions souhaité un dialogue ou un forum, quel que soit le nom qu'il prend. Donc, il est à saluer que ce dialogue apparemment est prévu. Maintenant, dans la démarche, les autorités italiennes ont préféré faire un pré-dialogue qui rassemblerait tous les politico-militaires face au CMT pour sans doute aplanir et puis avant d'aller au dialogue de 10 mai. Je pense qu'en soi, c'est une bonne chose.
Vous faites donc, vous le disiez, partie de ceux qui ont été conviés à ce pré-dialogue à Doha. Quelles sont les attentes, notamment du Conseil national pour le changement, dont vous êtes le porte-parole, et les attentes de votre délégation de manière générale?
Voilà, c'est certain que nous allons parler de l'avenir du Tchad. Pour tout ce que nous avons vécu pendant 30 ans, le CNC avait déjà pris position, et ça, vous le savez, et les Tchadiens le savent. Et nous essayons, par cette rencontre, de jeter les bases des nouvelles institutions, même si ça doit être discuté au dialogue national prévu pour le 10 mai. Mais d'ores et déjà, nous allons discuter avec le pouvoir en place comment faire pour que nous puissions nous retrouver tous ensemble pour parler de l'avenir du Tchad.
Ces assises de Doha sont, on l'évoquait tantôt, un avant-goût du dialogue national inclusif prévu donc le 10 mai avec les oppositions politiques et armées. Le général Mahamat Idriss Déby Itno réussira-t-il, selon vous, à ramener la cohésion nationale, la démocratie et la prospérité dans le pays?
Oui, c'est ce que tout le monde souhaite, et surtout nous, les politico-militaires, c'est ce que nous souhaitons. Mais il lui appartient à lui, comme il projette de faire tenir ce dialogue. Je pense que le pré-dialogue dans quelques jours à Doha nous donnera la température de la volonté du CMT.
L'ambassadeur Taher Ali Nanaï, porte-parole du CNC, le Conseil national pour le changement, joint à Paris.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Les législateurs nigérians sont revenus à de meilleurs sentiments sur des mesures visant à améliorer la parité femmes-hommes, notamment un quota de 35% de sièges réservés aux femmes au Parlement. Ce revirement est intervenu après plusieurs jours de manifestations d'un groupe de défense des droits de femmes. Reportage d'Abuja de Timothy Obiezu, le récit est de Lionel Runanira Gahima.
Le président de la Chambre basse, Femi Baiba Biamila, a annoncé la bonne nouvelle mardi, alors que des centaines de femmes manifestaient devant l'Assemblée nationale à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Pendant une semaine, Des centaines d'activistes s'étaient mobilisés pour protester contre le rejet par les législateurs des mesures en faveur de la parité homme-femme.
C'est une évolution louable et nous pensons que ces projets de loi, le premier sur le genre, le deuxième sur l'autochtonie et le troisième sur la discrimination positive avec le quota de 35% en faveur de femmes dans la direction des partis politiques sont d'importants projets de loi.
Le projet sur l'autochtonie vise à accorder aux femmes le droit de se considérer comme originaires de l'État dont est issu leur époux. Les législateurs se pencheront sur les trois projets de loi dans 4 semaines. Toutefois, les femmes leaders se sont réunies mercredi à l'Assemblée nationale nigériane pour exercer des pressions en vue d'accélérer ce processus. De nouveau, l'activiste Cynthia Mbamalo.
Nous avons 2 autres projets de loi en entente et il est important que l'Assemblée nationale, même le Sénat, bien sûr, revoie ces projets de loi. Il nous en faut 5 sur 5.
Les projets de loi visent à renforcer le rôle des femmes en politique et au sein des instances nationales de décision. Certains législateurs, comme le député Olubunmi Adetunji, y sont favorables et ont promis de persuader leurs collègues à les soutenir.
La demande des femmes s'inscrit dans le cadre de leurs droits et elle est progressive. C'est une demande fantastique et certains d'entre nous sont avec elles et continueront de parler à nos collègues pour qu'ils revoient leur position afin que la victoire soit
nôtre. Les législateurs nigériens ont voté la semaine dernière pour accorder aux femmes 20% des sièges, une hausse dramatique par rapport aux 7% actuels. Amina Agbadje dirige la Fédération internationale des femmes avocates.
Si sur 100%, les femmes qui représentent 50% des électeurs au Nigeria réclament 30%, ce n'est pas trop demandé. Nos législateurs hommes ne sont pas fiables et l'agenda 2023 pour nous, c'est « Femmes, vote pour femmes ».
Conscient de cette réalité, le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré mardi que les femmes ne peuvent plus être privées de leurs droits pendant longtemps. Elles ont démontré qu'elles peuvent s'en sortir dans tous les domaines, a-t-il ajouté.
Destination vers le Sahel pour découvrir Fatiwale Mohamed Issa. Une jeune réalisatrice du nord du Mali, elle a pour objectif de mettre en lumière la vie des femmes sahéliennes. À travers ses documentaires, elle espère sensibiliser au sort des filles exclues du système éducatif dans le Sahara. Plus de détails avec Dili Diko.
Issue de la région de Tombouctou, au nord du Mali, Fati Wallet, 24 ans, est l'une des 10 jeunes maliennes sélectionnées par l'ONG américaine Accountability Lab pour réaliser en 2021 des courts-métrages sur la condition féminine au Mali. Écoutons Zeina Mohamed Ali, représentante de l'ONG Accountability Lab.
Donc, en général, le projet consiste à former 10 jeunes dames qui représente plusieurs régions du Mali et avec des thèmes diversifiés. Des thèmes qui parlent des problèmes auxquels sont confrontées les communautés maliennes en général. Et l'idée derrière le projet, c'est aussi de donner la parole aux femmes, qu'elles puissent s'exprimer.
Fati souhaite montrer les difficultés vécues par les jeunes filles au Sahel et plus particulièrement dans les milieux nomades où l'éducation passe souvent au second plan. Elle s'exprime à travers sa caméra. Abel Kavana est porte-parole de la MINUSMA à Tombouctou.
Le cinéma est un excellent moyen de sensibilisation sur les sujets qui constituent aujourd'hui les défis majeurs pour le Mali, particulièrement Tombouctou et la région.
Fati explique que les défis auxquels font face les femmes maliennes sont vraiment nombreux. Écoutons Fati Wallet Mohamed Issa, réalisatrice.
En fait, tout ce qui concerne la femme est un problème chez nous. Parce que c'est des gens qui sont trop jugés par la communauté.
À travers son film, elle espère changer les mentalités et faire comprendre l'importance de l'éducation pour les filles. À nouveau, Fati Wallet.
Je fais ce film en espérant que cela va toucher notre communauté. en espérant que cela va changer leur avis par rapport aux jeunes filles et à leur éducation, et également à l'État, les autorités aussi. Je voulais, c'est une sorte de sensibilisation en fait. Je le fais sous forme de plaidoyer auprès de l'État, également auprès de la communauté, pour qu'elles prennent conscience de l'éducation de la fille et pour que l'État s'implique davantage.
Fatih Wallet ajoute qu'il y a beaucoup à faire pour faire évoluer la situation. Entre-temps, à Tombouctou, plusieurs projections de son documentaire sont prévues.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Les troupes américaines se sont déployées dans les montagnes boisées de l'est de la Pologne, à quelques kilomètres seulement de la frontière ukrainienne. Cela les place à proximité immédiate des récentes frappes aériennes russes sur des cibles en Ukraine occidentale et pourraient en faire une cible si l'OTAN devait s'impliquer dans la guerre. Un reportage de Henry Ridgewell depuis Arlamov, en Pologne. Le récit est de Rosine Munezer.
Des troupes de la 82e division aéroportée américaine en marche dans les forêts d'Arlamov, dans les Carpates, en Pologne. Ce contingent fait partie d'un déploiement plus large de 5000 soldats américains envoyés en Pologne ces dernières semaines. Il s'ajoute aux 4000 soldats américains déjà présents dans le pays. L'OTAN envoie un message. Elle défendra chaque pouce du territoire de l'Alliance. La frontière ukrainienne n'est qu'à quelques centaines de mètres de cette piste. Et tandis que des milliers de soldats américains effectuent des exercices dans ces forêts polonaises, la Russie a mené des frappes aériennes sur des cibles ukrainiennes juste au-delà de la frontière. Il y a des craintes croissantes d'un engagement accidentel entre les États-Unis et la Russie. Une hotline a été mise en place pour éviter ce scénario. Mais on craint également que les troupes de l'OTAN en Europe de l'Est ne soient prises pour cible en cas d'escalade. Le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine a relevé le niveau d'alerte de ses forces nucléaires en réponse à ce qu'il a qualifié de déclaration agressive de l'OTAN. Constance Stelzenmüller, dans l'institution Brookings, explique.
L'OTAN continue de dire qu'elle n'interviendra pas sur le territoire ukrainien, mais de plus en plus d'armes occidentales affluent en Ukraine via les États membres de l'OTAN. Et il est possible que Poutine considère, ou en fait considère déjà ce soutien militaire, qui, de notre côté, il faut le dire, n'est pas particulièrement contrôlé, ou accompagné d'un message prudent, comme une adhésion de l'OTAN au combat. En d'autres termes, la discussion, dans une certaine mesure, porte maintenant sur la question de savoir si Poutine sera prêt à utiliser des armes nucléaires tactiques contre les forces de l'OTAN sur le territoire de l'Alliance. Ce serait un nouveau monde.
L'OTAN ne doit laisser Poutine s'en tirer par le chantage nucléaire, estime Fabrice Potier, ancien responsable de la planification des politiques à l'OTAN.
Qu'est-ce qui empêchera Poutine de faire la même chose la prochaine fois, y compris éventuellement contre un allié de l'OTAN?
L'OTAN a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne s'impliquerait pas directement dans le conflit. La frontière de l'Ukraine avec la Pologne est devenue la principale porte d'entrée des réfugiés fuyant le conflit. Mais elle est également en train de devenir une frontière stratégique clé, un conduit pour les armes de l'OTAN à destination de l'Ukraine et un futur point de tension potentiel, estime Henry Ridgewell de la VOA.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Georges Léonard Sagno et Lionel Runanira Gahima au micro, Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Excellent week-end à vous tous, à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.
Afrique, les infos à Washington.